Voilà. Nous allons commencer, nous allons remettre nos vies et ce moment, cette réunion, à notre Seigneur Jésus-Christ. Inclinons nos têtes et nous croyons que malgré ces ordinateurs, qui fait qu'on ne soit pas proche l'un de l'autre, le Seigneur est avec nous. Merci Seigneur Jésus, merci pour cette soirée. Merci d'avoir réuni ton peuple, tes saints, tes fidèles, sous un seul esprit, dans un seul cœur. Parce que c'est toi qui as voulu cela dès le commencement. Que ta bénédiction puisse descendre sur nous et raviver toujours plus la flamme qui est à l'intérieur de nous, que toi-même tu as mise, la foi originelle des pères. Puisses-tu nous fortifier encore ce soir. C'est toi, Seigneur, qui d'en haut, tu vois les cœurs, tu vois les besoins, les nécessités de chacun d'entre nous. Puisses-tu agir en conséquence. Oui, Seigneur, nous recommandons nos vies à toi. Ce sont des moments vraiment difficiles, toujours plus difficiles. Et plus nous approchons de toi, plus c'est difficile. Plus nous approchons de cet objectif. Et nous voulons retourner là où toi, tu nous prépares une place. Merci, Seigneur. Puisses-tu bénir ta parole. La moindre par ta puissance, par la puissance du Saint-Esprit, et nous donner encore ce dont nous avons besoin ce soir. À toi, louange, honneur et remerciement, adoration. Nous croyons que tu es avec chacun d'entre nous, avec la famille que nous composons, et avec tous ceux qui s'ajouteront, tous ceux qui écouteront. Et encore, ce soir, tu glorifieras ton Saint-Nom. Merci Seigneur. Pour chaque chose que tu vas nous donner ce soir, au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom, Jésus. Que Dieu bénisse nos cœurs et nous fortifie toujours plus. On était arrivé dans la lecture des extraits du frère Franck à la page 29 en italien. Donc il y avait un petit morceau qui reste. On peut lire à partir de frère reprend à partir de assez longtemps, la parole avait été rendue sans force. Elle est à nouveau plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Elle pénètre et sépare. Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Jean 9, 39. Jour après jour, le Seigneur est celui qui illumine toujours plus, qui donne valeur à la parole dans nos cœurs. Donc nous attendons que notre corps soit changé en un clin d'œil. Mais tous les jours, nous avons le besoin et nous dépendons entièrement de la parole de Dieu et de l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi le frère Franck a écrit pour ceux qui pense avoir jusqu'à présent toujours vu, la lumière s'en ira. La parole est aussi un puissant marteau, lequel descend sur toutes les images de Babylone, qui sont antichrist. Donc c'est un marteau qui frappe justement les interprétations, qui frappe tout ce qui n'est pas vraiment de la parole de Dieu. Il les détruit et les emporte. Et par cela même, ces choses antiparoles, ces choses antichrist. Il y a une véritable sainteté que l'Esprit opère par la parole et une sainteté hypocrite qui porte la marque papale. Tous doivent être réduits au silence afin que seul ce que Dieu dit soit entendu. Celui qui pense être sanctifié devant Dieu parce qu'il accomplit ses propres préceptes, ne boit pas ceci, ne mange pas cela, ne fait pas ceci, etc., s'abuse lui-même. Ça, c'est une sanctification religieuse. Et le monde religieux, y compris ceux du message, avec leur propre interprétation. Ils interprètent ces choses. Et à Psaume 70. Donc on va lire deux passages qui parlent un peu de cela. Psaume 73, verset 9. C'est une parole que le frère Branham avait utilisée en disant que nos pensées sur la terre crient plus fort que nos paroles. Donc nos pensées crient plus fort que nos paroles. Donc Dieu les écoute. Donc il est écrit ici, ils placent leur bouche dans les cieux. Psaume 73, verset 9. Ils placent leur bouche dans les cieux et leur langue se promène sur la terre. Donc ce sont des gens gonflés. Ils croient être en ordre, mais en fait, ils ne sont pas en ordre. Parce que ce sont des gens religieux, des choses apparentes. Comme on l'a dit l'autre jour. Un manteau que le pape se met dessus. Un manteau religieux. Mais à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a? Ce qui compte, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, la sanctification intérieure. Ésaïe 29. Ésaïe 29. C'est deux passages qui rentrent un peu dans ce sens. Verset 13. Ésaïe 29, 13. Et le Seigneur dit, « Parce que ce peuple s'approche de moi, de sa bouche, et qu'il m'honore de leurs lèvres, et que leur cœur est éloigné de moi, et que leur crainte de moi est un commandement d'homme enseigné. C'est pourquoi voici j'agirai encore merveilleusement, et je ferai une œuvre merveilleuse envers ce peuple. » La sagesse de ses sages périra et l'intelligence de ses intelligents se cachera. Vous voyez? Souvent, le Seigneur le dit. On a aussi écouté le frère Branham et le frère Franck en parler. Ceux qui honorent de leur bouche, mais pas avec le cœur. Ça, on le sait tous. On sait que Dieu cherche la sanctification intérieure. Matthieu 15 aussi. Oui, plus ou moins la même chose. Juste pour voir aussi les passages des Écritures dans le Nouveau Testament. Matthieu 15, 8. Ce peuple m'honore de lèvres. Vous voyez, les paroles du Nouveau Testament que le Seigneur Jésus a prononcées, vous avez remarqué, elles sont prises de l'Ancien Testament. Vous avez remarqué cela. Ce qui est important, c'est ça. Alléluia. Le Seigneur ne prononçait rien de ce qui était déjà écrit depuis la fondation du monde, c'est-à-dire dans la même parole de Dieu. Ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est fort éloigné de moi. Mais ils m'honorent en vain, enseignant comme doctrine des commandements d'hommes. Vous voyez exactement ce que nous avons lu. Une sanctification qui vient de l'extérieur. On peut dire beaucoup de choses encore là-dessus. Du message que nous avons reçu depuis le commencement. Et combien de petites choses sont sorties de cela. Il faut faire ceci, il faut faire cela, il ne faut pas faire ceci. Mais le Seigneur nous a toujours gardés. Le Seigneur nous a vraiment mis l'accent sur la vérité. La vérité de sa parole et de son expression intérieure. Dans la communion que nous avons avec lui. Je continue à lire, le frère Franck ici. Ce jour est saint pour le Seigneur. Maintenant, il exécute lui-même, par sa parole et son esprit, la sanctification parmi son peuple. Même si quelque application nous semble nouvelle sur le moment, il faut cependant que la parole de Dieu devienne la seule règle pour notre vie personnelle. Et ça, c'est vrai. Beaucoup, peut-être, ont des difficultés à mettre en pratique, disons, les vérités divines, celles que nous avons écoutées, les révélations que le Seigneur nous a données ces derniers temps. Et on a des difficultés. Mais néanmoins, comme ici le frère Franck le dit, c'est quelque chose qui est important. Même si l'application, sur le moment, ça semble nouveau, il faut quand même que la parole de Dieu devienne la seule règle pour notre vie personnelle. Personne n'a le droit de prononcer de jugement sur quelqu'un d'autre. Et pour cela aussi, frère Branham a été notre exemple. Et au fond, chacun est fautif devant Dieu d'une manière ou d'une autre. Et j'ai encore noté des passages ici que j'aimerais lire. Ézéchiel 35, 23. Parce qu'il faut que la parole de Dieu... il faut qu'on ait toujours deux ou trois témoins dans la parole, deux ou trois passages, et que ça soit toujours confirmé par Dieu, par le Seigneur, par son Esprit. Ézéchiel 36. Ézéchiel 36. Passage est important ici. Ézéchiel 36, 23. Et je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations et que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur, l'Éternel, quand je serai sanctifié en vous à leurs yeux. Alléluia. Et je vous prendrai d'entre les nations. On a souvent cité cela. C'est Dieu, seul, l'Esprit de Dieu lui-même, qui venant dans ton cœur, qui venant à l'intérieur de toi, c'est lui-même qui se sanctifie en toi. Voilà. C'est sa propre parole. C'est sa propre révélation qui vient dans ton cœur. Il prend une forme et il met en acte la vraie sanctification. Parce que de nous-mêmes, on reste des religieux. Jean 17, 19, on va le lire aussi. Jean 17. Une merveilleuse parole ici. 19. Verset 18, on commence au 18. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Et moi, je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Amen. Alléluia. Il n'y a pas moyen d'œuvrer nous-mêmes notre propre sanctification. On peut le faire, mais alors ce sera toujours quelque chose de faux, quelque chose qui ne vient pas de Dieu directement, voyez. Ça vient toujours de l'homme religieux, qui fait les œuvres sans la foi, et agit comme ça. Donc je relis. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Et moi je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Amen. Et aussi Hébreux 10. Et on va lire aussi Romains. Alléluia. Parole merveilleuse. Voilà pourquoi, parfois, quand on a écouté le message au début, au commencement, il est vrai qu'il y a eu un impact fort, quelque chose qui nous a, comment dire, un peu secoué, qui nous a pris. Et puis, petit à petit, on a commencé à délaisser un peu la chose, c'est possible, parce que il y a des choses qui étaient un peu dures à mettre en pratique. Et on n'y arrivait pas, etc. Donc il y avait une certaine difficulté. Mais néanmoins, le Seigneur a utilisé toute son autorité et toute sa force pour pouvoir sanctifier une épouse sans tache, ni ride, ni ride semblable, pour la mettre de côté, à part, parce que le mot sanctifier, c'est être mis à part, pour pouvoir, le service pour être à son entière disposition, afin que lui puisse se sanctifier au milieu de nous, parmi nous et en nous. Donc ici, 19, donc Romains 16, 19. Ah, c'est pas ça, 19 alors. Ah non, ce n'est pas 16, 19. Bon. Donc, le verset, le Seigneur te veut, il te veut avec lui, il te veut vraiment laver, nettoyer, te purifier, te sanctifier et te baptiser du Saint-Esprit. Alors qu'on était encore esclaves du péché, vous êtes maintenant affranchis. Quel fruit portiez-vous alors? Des choses dont vous avez honte maintenant. Parce que la fin était la mort. Mais maintenant, vous avez été affranchis du péché. Alléluia. Vous êtes devenus. Vous avez votre fruit dans la sanctification. Tous les jours. Tous les jours. Et à la fin, la vie éternelle. Le don de Dieu, c'est la vie éternelle. En Christ Jésus notre Seigneur. C'est un passage que les pentecôtistes, les évangéliques, utilisent beaucoup. Alléluia. 2 Thessaloniciens. Je m'arrête un peu ici parce que c'est important. Qu'on réalise que la sanctification, c'est quelque chose que Dieu même fait par la parole. Et plus tu réalises la parole, plus tu te sanctifies par cette même parole. Et plus la parole t'est révélée, plus tu es sanctifié par cette même parole révélée. 2 Thessaloniciens 2. Mais nous devons toujours rendre grâce à Dieu pour vous, frères aimés du Seigneur, de ce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut dans la sainteté de l'esprit et la foi de la vérité, à quoi il vous a appelé par notre évangile. Parole précieuse et profonde ici. C'est une parole qui fait plaisir, qui fait du bien à nos cœurs. Parce que vous voyez, c'est pas celui qui court ou celui qui veut. Mais c'est Dieu qui fait grâce. C'est juste? Amen. C'est Dieu qui fait grâce. C'est Dieu qui nous a aimés, qui nous a prédestinés, qui a voulu qu'on soit vraiment un peuple mis à part. Une épouse qui porte son nom. Une église, un peuple affranchi, régénéré, qui porte son nom. Vous voyez? Je continue ici. Je relis. Mais nous devons toujours rendre grâce à Dieu pour vous, frères aimés du Seigneur, de ce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut dans la sainteté de l'Esprit et la foi de l'Esprit, la sanctification de l'Esprit et la foi de l'Esprit, à quoi il vous a appelé par notre évangile, pour que vous obteniez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Hébreux 12. Un autre passage. Hébreux 12, 14. Hébreux 12, 14. Voilà pourquoi jour après jour, à chaque moment, notre vie est attachée. Il reste attaché à Christ et à la parole. Voilà pourquoi il est écrit: poursuivez la paix avec tous et la sainteté sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Veillant de peur que quelqu'un ne manque de la grâce de Dieu, de peur que quelque racine d'amertume bourgeonnant en haut ne vous trouble, et que par elle plusieurs ne soient souillés. Amen. Vous voyez, parce que la sanctification, ça vient avec la purification, avec la consécration. Ça va ensemble. Vous voyez, tout est là. Un. Voilà pourquoi c'est important. Jour après jour, sans avoir de pause. Parce qu'une fois qu'on est dans les mains du Seigneur, on lui appartient. C'est comme quelqu'un, c'est comme un fils qui fait partie de la famille quand il naît. Et il commence à grandir, il fait toujours partie de la famille. Il est de la famille. Donc, comme il est écrit dans Corinthiens 12, on a été baptisé dans un seul esprit, pour faire partie d'un seul corps. Et on est à l'intérieur, dedans, dans ce corps-là. Alléluia. Ça, c'est une chose merveilleuse, vous voyez. Donc, c'est pas l'effort humain. C'est pas un effort humain. Ni d'une église qui veut se sanctifier, qui veut avoir des préceptes ou des choses pour démontrer que nous sommes des religieux. Non. Mais c'est à l'intérieur que Dieu a mis à part notre âme. Afin qu'on puisse le servir en esprit, en vérité. Alléluia. Ça, c'est important. Donc le frère Franck écrit, personne n'a le droit de prononcer de jugement sur quelqu'un. Donc chacun doit regarder soi-même pour voir s'il marche devant le Seigneur, avec le Seigneur. Donc je continue à lire, le frère Franck écrit, le 18 avril 1965, frère Branham a ordonné un certain nombre de prédicateurs, et parmi ceux-ci se trouvaient certains qui, selon le droit civil, avaient été divorcés et étaient remariés. Donc l'accent ici, on met l'accent que même on parle de la sanctification, ce n'est pas une sanctification extérieure de l'homme, ce qu'on peut voir, mais on parle de l'intérieur. Et ici, le frère Franck continue dans ce sens-là. Donc, frère Branham a ordonné un certain nombre de prédicateurs, et parmi ceux-ci se trouvaient certains qui, selon le droit civil, avaient été divorcés et étaient remariés. Avant la révélation reçue sur ce thème du divorce, lequel est le plus difficile de tous à comprendre, une telle chose aurait été impensable. Mais, donc si on suit les traces de des dénominations, si on... Donc les traces des églises évangéliques ou même encore jusque maintenant, cette chose était quelque chose qu'on ne pouvait pas faire. Et vous le savez vous-même. Hein. Donc ils étaient déjà, on les avait déjà tachés, on avait déjà mis des taches dessus. Il ne fallait pas monter sur le pupitre, etc., etc. Donc cette chose-là, c'était vraiment une chose grave pour leur type d'esprit là, pour leur type de sanctification là, pour leur type de sanctification charnelle. Mais, je continue, le frère Franck dit, mais depuis ce temps, le prophète fit certaines choses qui contredisaient la position qu'il avait auparavant. Et ça, c'est vrai. Chemin faisant, c'est vrai. Le message du temps de la fin est une révolution dynamique, spirituelle. Moi, je l'ai souligné. Soulignez-le aussi dans votre brochure. Et relisez, vraiment, le message du temps de la fin nous a fait sortir de tous les contextes, de toutes les mentalités religieuses, tout esprit dénominationnel, tout credo, etc. Le message du temps de la fin est une révolution dynamique spirituelle. Tous les jougs de Babylone ont été brisés. Tous les joues de Babylone ont été brisées. Nous sommes libres. Attention, nous sommes libres. Attention. Une année de jubilé a commencé. Et elle ne se terminera qu'avec la venue du Seigneur. Donc, ça signifie que la connaissance du message, la connaissance de la parole de Dieu révélée, a rendu nos cœurs libres de l'esclavage, de la dénomination, de la religiosité, des pensées humaines, charnelles, humaines, diaboliques. Et ça, c'est vrai. Vous voyez ? Donc, tous les Juifs de Babylone ont été rendus libres. Et j'avais noté que tous, à cause du pardon et de la révélation que Dieu a donnée à son prophète. Donc, j'ai mis une petite note ici, c'est moi qui ai noté. À cause du pardon et de la révélation que Dieu a donnée à son prophète. Le pardon. Vous voyez ? Moi, j'insiste, le pardon. Donc, petit à petit. Donc, vous savez, il y a beaucoup de choses que Dieu nous a données. Donc, je continue à lire. Que dites-vous, par exemple, de notre bien-aimé frère Sidney Jackson, le 23 août 1964 ? Frère Branham disait ceci. Pourquoi frère Jackson et sa femme représentent-ils tant de choses pour moi? Parce qu'il est un chasseur? Non. Parce que là-bas, j'ai beaucoup d'amis de chasse. Pourquoi représentent-ils tant de choses pour moi? Pourquoi? Si seulement vous aviez le mystère qu'il y a derrière toutes ces choses. Nous, on savait déjà que le frère Jackson, Sidney Jackson, est venu à Krefeld. Moi, je l'ai connu personnellement quand il y avait cette réunion en, je crois que c'était en 1976, si je ne me trompe pas, un vrai frère que j'ai connu. Alléluia. Donc, pourquoi? Mais toute sa vie, il avait comme une tâche. Il avait comme une tâche sur lui. Pourquoi? On va lire. On lisons maintenant. Donc, frère Franck écrit. Donc, frère Branham disait, « Cependant, je ne dis pas aux gens tous les mystères que je connais. Mais pourquoi cela? À l'heure même où le Seigneur me dit, « Prends contact avec Sidney Jackson en Afrique du Sud. » Le Seigneur dit à Sidney Jackson qu'il devait venir ici. Regarde un peu ça. Aux yeux des gens, ce frère sanctifié était marqué d'une tâche parce que toute sa vie, il fut marié à une femme divorcée. Mais devant Dieu, il était un instrument choisi et irréprochable. Choisi et irréprochable, que celui qui peut saisir le fait que Dieu ait parlé à la même heure à frère Branham aux États-Unis et à frère Jackson en Afrique du Sud, qu'il le saisisse. Alléluia. Vous voyez? Donc j'aimerais lire au passage. On dirait que Dieu a deux poids deux mesures. Non, Dieu n'a pas deux poids deux mesures. Non. Dieu a sa volonté directe. Et il sait exactement ce qui compte et ce qui ne compte pas. Et il agit de la manière dont il veut. Voilà pourquoi, comme on l'a lu déjà. Où est-ce qu'on l'a lu? Un peu plus haut. Donc, je suis en train de chercher le passage ici. Donc, le frère cherche là où frère Franck avait écrit. Donc, on a lu que le message qui est venu à chambouler toute chose. Donc juste au-dessus. Mais plus au-dessus. Un peu plus haut. De toute façon, on l'a lu. Donc j'aimerais bien lire Osée 1. Lisons Osée, chapitre 1er. Osée 1. Des fois, je dois noter un peu mieux avec le bic. Mettre des signes de ma Bible pour aller plus vite. Essayons de savoir pourquoi ce Dieu grand qui remplit le ciel et la terre a pu faire cette chose. Ou lui-même. Lui-même qui dit qu'il va avec une prostituée devient une seule chair avec lui. Etc. Avec elle, etc. 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 Encore d'autres choses. Donc, 1, 2. Osée 1, 2. Commencement de la parole d'Éternel, de l'Éternel par Osée. Et l'Éternel dit à Osée, va, prends-toi une femme prostituée et des enfants de prostitution, car le pays s'est entièrement prostitué en abandonnant l'Éternel. Et il s'en alla et prit Gomer, fille de Diblaïm, et elle conçut et lui enfanta un fils. Et l'Éternel lui dit, appelle son nom Jisraël, ce que Dieu a planté. Et aussi au verset 6, « Elle conçut encore, elle enfanta une fille. » Donc c'est écrit dans les Écritures. Qu'est-ce qu'on peut dire à Dieu? Qu'est-ce qu'on peut lui reprocher à Dieu? Qu'est-ce qu'on peut reprocher à Dieu? Que le Seigneur fasse grâce. Mais derrière, il y a un plan. Derrière, il y a exactement le plan de Dieu pour démontrer combien cet Israël, et combien l'Église aussi, des gentils, des nations, est vraiment hors des rails. Elle est désobéissante, ils sont désobéissants. C'est pour démontrer son plan. Voilà pourquoi tout ce qu'on lit maintenant ici, c'est important. Important de voir, pas selon la loi préfixée, définie, mais selon l'Esprit de Dieu, comment lui agit, et selon sa pleine volonté. Ça, c'est très important de reconnaître cela. Très important. Donc, cette parole, on l'a lue, on l'a bien comprise, mais ça va ensemble, parce que ce frère-là, Sidney Jackson, c'est un frère, Dieu l'a utilisé vraiment, et même dans l'ouverture des sept sceaux. Si vous lisez bien l'histoire, avec l'ouverture des sept sceaux, il a donné des indications, des confirmations, de ce que Frère Branham devait faire. Donc, je dis ça à titre d'information. Donc, je continue à lire. Et que celui qui peut comprendre, comprenne aussi. Pourquoi le Seigneur a parlé le 1er avril 1962 à Frère Branham aux États-Unis, lui disant d'emmagasiner de la nourriture, et que le 2 avril 1962, ici en Europe, il me dit la même chose d'une voix audible et puissante. Dieu a parlé. Il lui a parlé. Le Seigneur a parlé avec une voix audible et puissante. Quelle combination, et on dit pourquoi? Pourquoi? Voilà le plan de Dieu. Ça nous laisse un peu, ça nous laisse étonner, mais ça fait ressortir, ça fait ressortir d'un côté la loi, la religiosité, et puis Dieu chamboule tout. Regardez dans mariage-divorce, attention, ce que Dieu a mis en action, c'était quelque chose de glorieux. Voilà pourquoi le message du frère Branham, dans ses prédications, si vous l'avez noté, ça frappait l'esprit de l'homme, l'âme de l'homme, de façon qu'il puisse complètement changer et accepter le pardon et la grâce de Dieu et devenir une nouvelle créature. Je ne sais pas si vous avez déjà fait attention à cela, mais c'est très important parce que c'est le pardon que Dieu envoyait la dernière génération. À la dernière génération. Et le dernier message que Dieu a envoyé, c'était vraiment cela. Que Dieu vraiment, Que tu ouvres nos cœurs, notre entendement pour réaliser cela, pour comprendre cela. Je continue à lire. Frère Franck écrit, quelqu'un peut-il nier que cette commission ait été accomplie dans le monde entier? Alléluia. On ne peut pas le faire. Vous voyez? On ne peut pas nier. Matthieu 24, 14. On ne peut pas le nier. Et tout cela. Où donc demeure le respect devant les décisions de Dieu? Où donc demeure le respect devant les décisions de Dieu? Vous voyez combien de choses tordues on a pensées dans le passé et qu'on a dites vis-à-vis de certains frères, vis-à-vis de serviteurs de Dieu, devant des vrais serviteurs de Dieu, des choses vraiment fausses. On a apporté des choses fausses. Voilà pourquoi il dit ici, qui a connu la pensée du Seigneur, le frère Franck ajoute, qui a été son conseiller? Sa miséricorde ne triomphe-t-elle pas du jugement et sa grâce sur la loi? Ah, vous voyez, exactement ce que je vous ai dit. Une minute, exactement ça. Le message de l'heure, c'était vraiment cela. C'était vraiment toucher l'âme de l'épouse de façon à la faire rentrer exactement comme au commencement, comme au tout début, afin que d'elle-même, de son libre arbitre, elle décide, je le dis vraiment au nom du Seigneur Jésus-Christ, qu'elle puisse décider elle-même de retourner exactement comme le fils prodige, retourner vers le Père, vers notre Créateur, vers notre Dieu Sauveur, qui nous a élus avant la fondation du monde, et que dont nous avons perdu l'identité, chemin faisant. Je ne sais pas si ces paroles, je les ai dites bien justes, mais que le Seigneur vous les fasse comprendre de la bonne manière. C'est important que cette chose soit comprise de la bonne manière. Voilà où naît l'amour spontané. Pas par la loi. Pas par la loi. On a reçu une brochure, le frère Genton de temps en temps nous envoie une brochure du frère Branham. Ils ont préféré la loi plutôt que la grâce. C'est une brochure du frère Branham. C'est important cela. Donc, sa miséricorde ne trompe-t-elle pas du jugement et sa grâce sur la loi? Voilà. Ça doit être comme ça. Tu dois faire comme ça, et tu dois faire comme ça. C'est comme ça. Non, c'est comme ça. Et il ne regarde pas la miséricorde de Dieu. Et on ne regarde pas la grâce que Dieu est capable de faire. Donc je continue à lire, le frère Franck ici. L'autodestruction. Donc il y a encore à lire aussi. Nous on a déjà lu beaucoup de fois un Corinthiens. Et relier ça avec ça. L'autodestruction des croyants. N'est-elle pas l'œuvre directe des démons? C'est Satan seulement qui vient pour détruire. Dieu lui édifie. Là où se trouve Dieu, là se trouve la paix, la bénédiction et l'amour. Amen. Dans sa prédication « Respect envers le serviteur de Dieu », frère Branham démontre, entre autres exemples, celui du manque de respect de Myriam et d'Aaron envers leur frère Moïse. Donc je vous rappelle, donc on est en train de voir comment le Seigneur nous fait sortir de la manière de voir humaine, des voies humaines, pour nous faire comprendre sa manière de voir à lui, ce qui vient du trône de la grâce. Parce que, des fois, aux yeux humains, on croit que c'est impensable. On croit que Dieu fait des choses pas normales, irrégulières, mais néanmoins, c'est Dieu, c'est sa volonté. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire, mais le temps passe. Donc l'autodestruction des croyants n'est-elle pas l'œuvre directe des démons? Toutes ces blabla, tous ces parler en vain, toutes ces pensées humaines, selon la loi personnelle, des vues personnelles, c'est seulement Satan qui vient pour détruire. Dieu lui édifie. Là où se trouve Dieu, là se trouve la paix, la bénédiction, l'amour. Dans sa prédication respect envers les serviteurs de Dieu, frère Branham démontre, en d'autres exemples, celui du manque de respect de Myriam et d'Aaron envers leur frère Moïse. À leur sens, ils croyaient avoir raison. Une prédication de 1761 de frère Branham. Donc, ils pensaient avoir raison. Mais ils ne reconnurent pas, comme le dit frère Branham, que Dieu se tenait derrière ce que Moïse avait fait. Suivez. Donc, selon la ligne, il ne devait pas prendre selon la règle, il ne devait pas prendre cette femme. Voilà. Mais ils ne comprenaient pas que l'appel de Dieu, faites attention, soulignez cela, que Dieu vraiment scelle ses paroles ce soir dans nos cœurs. Les scelle. Ils ne comprenaient pas que l'appel de Dieu ne dépend pas des circonstances de la vie naturelle d'un homme. Moi, je l'ai souligné. Myriam fut punie sévèrement pour cela, vous voyez? Parce qu'elle n'a pas eu le discernement. N'est-ce pas? On peut dire qu'elle n'a pas eu le discernement parce qu'elle n'a pas compris, elle n'a pas réalisé quelle était la volonté de Dieu. Et elle a parlé un peu trop. Et elle a suivi sa propre voie au lieu de dire Seigneur, fais-moi comprendre. Elle n'a pas discerné. Donc ce sont des choses incroyables. Lisons dans 2 Samuel quelques passages. 2 Samuel 14, 17. 2 Samuel, on va commencer là. 14, 17. Regardez ici, 2 Samuel 14, 17. Regardez comment les rois, qui étaient vraiment loin de Dieu, dans la volonté de Dieu, comme David, c'était un roi selon le cœur de Dieu. Et là on voit, donc c'est l'histoire d'Absalom avec Joab, etc. Joab voulait qu'Absalom voulait qu'il rentre. Donc, vous lisez vous-même le contexte. Il y a une servante qui était sous l'influence de Joab et est allée vers David. Et là, cette servante a dit que la parole du roi monseigneur nous apporte du repos, car le roi monseigneur est comme un ange de Dieu pour entendre ou pour discerner le bien et le mal. Et l'Éternel ton Dieu sera avec toi. Juste. Et en effet, David, pendant qu'elle parlait, il a compris ce qui se passait. Lisez vous-même. Et il a dit, dis-moi, c'est pas Joab qui t'envoie? Vous voyez? Donc il n'y a pas de discernement. S'il n'y a pas le discernement, avant d'ouvrir la bouche, avant de tourner son cœur dans une telle direction, il faut d'abord prendre le conseil auprès de Dieu. Prenons d'abord le conseil de Dieu. Et ça, c'est la volonté parfaite de Dieu. Proverbe 14, 8. Des enseignements pour notre vie. Pour marcher dans la sanctification. Proverbe 14, 8. Vous voyez combien c'est important de pouvoir discerner des choses et d'attendre avant de parler. La sagesse de l'homme avisé ou prudent est de discerner sa voix, mais la folie des sots est tromperie. Vous voyez? La folie des sots est tromperie. Et aussi Proverbe 4.1, lisez aussi le Proverbe 4.1. plus près. Fils, écoutez l'instruction d'un père et soyez attentif pour connaître l'intelligence ou la prudence. Discerner, connaître. 1 Corinthiens 11, 29. 1 Corinthiens 11, 29. Vous savez déjà qu'il s'agit de discerner le corps du Christ. Verset 28. Mais que chacun s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et qui boit, mange et boit un jugement contre lui-même, ne distinguant pas ou ne discernant pas le corps. Le corps du Seigneur, n'est-ce pas? Alléluia. Ne discernant pas le corps du Seigneur. Donc c'est important. Donc là, il ne comprenait pas, vous voyez, il ne comprenait pas que l'appel de Dieu ne dépendait pas des circonstances de la vie naturelle d'un homme. Et je répète, combien d'erreurs à cause de ça. Myriam fut punie sévèrement pour cela. Même Philippiens 1:9 aussi. Regardez un peu ce qui est écrit dans Philippiens 1:9. Vous l'avez? Philippiens 1:9. Et je demande ceci dans mes prières, que votre amour abonde encore de plus en plus en connaissance et toute intelligence, pour que vous discerniez les choses excellentes, afin que vous soyez purs et que vous ne bronchiez pas jusqu'au jour de Christ, étant rempli du fruit de la justice, qui est par Jésus-Christ à la gloire et la louange de Dieu. Sincère. Pour discerner les choses les meilleures. Il faut discerner les choses les meilleures. Avoir un discernement. C'est vrai que des fois, on ne sait rien. Aussi Hébreux 5, 14. Alléluia. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous aide, qu'il nous fortifie. Qu'il fortifie notre foi et notre cœur. Pour pouvoir rester vraiment intègre. Soumis. Hébreux 5, 14. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, qui, par le fait de l'habitude, ont les sens exercés à discerner le bien et le mal. La purification. Ça, tout dépend de cela. Donc, regardez. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, qui, par le fait de l'habitude, ont les sens exercés à discerner le bien et le mal. Et pourtant, tu dis, ah, il faut pas penser. Non, il faut le discernement, il faut avoir le discernement si telle chose est bonne ou si telle chose est mauvaise. Et toi, tu vas dire, ah non, tous les chrétiens sont amour, il faut aimer. Ben, voyez. Et alors là, vous êtes fourvoyé, vous êtes complètement hors de la route si vous présonnez comme ça. Il faut discerner ce que Dieu vraiment est et ce qu'il veut. Et aussi dans Matthieu 16, c'est un passage prophétique aussi. Matthieu 16, 3. Matthieu 16, 3. Alléluia. On peut lire à partir du premier verset. Et les pharisiens et les sadducéens, s'approchant, lui demandèrent pour l'éprouver de leur montrer un signe du ciel. Mais lui répondant, leur dit, quand le soir est venu, vous dites, il fera beau temps, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura aujourd'hui de l'orage, car le ciel est rouge et sombre. Vous savez discerner l'apparence du ciel, et ne pouvez-vous pas discerner les signes des temps? Vous voyez comme c'est important. discerner ce que nous sommes en train de vivre maintenant. Parce qu'on le dit avec la bouche. Mais est-ce qu'on le sent réellement dans notre cœur? Que le Seigneur arrive, revient? Est-ce que vous le sentez profondément à l'intérieur? Est-ce que l'abîme appelle à notre abîme? Quand on voit tout ce qui se passe autour de nous, comment l'Antichrist est en train de prendre position dans tous les lieux, dans toutes les situations, dans toutes choses, il a pris sa position. En Amérique, en Italie, partout. Il a pris position. Et on doit sentir, on doit dire, le Seigneur est vraiment en train de revenir. Mettons notre maison en ordre. N'est-ce pas? Mettons notre maison en ordre. Je parle de la maison intérieure. Et tout ce qui m'entoure aussi. Que chacun ressente la même chose dans son cœur, parce que c'est un élu, un fils de Dieu. Parce que le signe du temps, c'est cela. Vous voyez? Alléluia. Je continue à lire. Notre frère Franck. Dans la prédication « Regardant à Jésus », frère Branham parle des circonstances dans lesquelles le Seigneur a puni aussitôt sœur Branham pour un manque de respect à l'égard de son mari. Sœur Branham avait seulement claqué la porte devant son mari, lequel n'y avait d'abord pas vraiment pris garde. Il dit dans cette prédication, « Cependant, le Saint-Esprit ne laissa pas passer cela. Comme je sortais, il dit, « Va et dis-lui qu'elle lise la parole de Nombre 12. » Je rentrai, pris la Bible et lus. C'était l'endroit où Myriam, la prophétesse, se moquait de son frère Moïse parce qu'il avait épousé une fille éthiopienne. Cette façon de faire déplut à Dieu. Il dit, « Il eût mieux valu que son père lui eût craché au visage que d'avoir fait cela. » Est-ce que vous pensez? Je dis ça dans l'amour du Seigneur et dans l'humilité la plus grande possible. Est-ce que vous pensez que le Vieux Testament a été éliminé aujourd'hui? Ou est-ce que vous croyez qu'il a été hanté, greffé directement dans la révélation de Jésus-Christ d'aujourd'hui? Mes amis, que Dieu nous bénisse. Et qu'il nous fasse grâce. Et qu'il nous fasse entrer pleinement dans le juste esprit. Nous tous. De façon que vous puissiez vraiment comprendre ce que ça veut dire cette parole. C'est important. Donc frère Franck, continue. Donc regardez d'abord un peu une vraie croyante. Une vraie croyante. Je parle de l'épouse physique, personne humaine. Comme je parle de l'Église. Je l'ai dit de tout mon cœur, devant Dieu. La rébellion n'est pas cachée devant Dieu. Ce n'est pas caché devant Dieu. Moi, je peux le cacher à toi. Toi, tu peux me cacher à moi. Mais à Dieu, tu ne peux pas cacher. Amen. Vous ne pouvez rien cacher. Donc, c'est quelque chose qui déplaît au Seigneur. C'est quelque chose qui est grave, gravissime. Voilà pourquoi parfois, il se passe des choses et on ne sait pas d'où ça vient. Je le dis pas pour vous faire peur, mais pour vous faire voir la réalité, c'est la vérité, ainsi disent les Écritures. Il arrive des choses et on ne sait pas d'où ça vient. Et Dieu doit nous aider à bien discerner les choses. Nous tous. On est tous dans la même barque, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Je continue à lire. Dans ces temps, comme jamais auparavant, nous trouvons un manque de respect parmi les gens. Cela se rapporte à tous les domaines, que ce soit devant les autorités, devant l'État, devant Dieu et sa parole, devant les parents, dans les écoles, et à l'égard des ministres dans l'Église. Donc, on va un peu se rafraîchir la mémoire. On va lire 1 Timothée 3. 1 Timothée chapitre 3. On sait ces choses, mais on va se rafraîchir un peu la mémoire. Donc, dans les derniers temps, donc même si les temps sont avancés, que Dieu nous fasse comprendre les temps dans lesquels nous vivons. En fait, c'est 2 Timothée 3. 2 Timothée 3. Or, sache ceci, que dans les derniers jours, il surviendra des temps fâcheux, car les hommes seront égoïstes, avares, vantards, hautains, outrageux, désobéissants à leurs parents. Désobéissants à leurs parents. Vous voyez? Combien de personnes? Vous voyez, tout le monde est sous l'emprise de Satan maintenant, de la main du diable. Non, on ne peut pas dire différemment. Et même des fois l'Église, des fois, est prise par cet esprit. Implacable, calomniateur, etc. Donc je continue à lire le frère Franck ici. Et c'est à cause de cela que l'Église, frère Franck il dit, c'est à cause de cela que l'Église se trouve dans la condition que frère Branham a décrite de façon si frappante. Est-ce qu'il n'a pas été exposé et développé le fait qu'en réalité, nous devions renoncer à ce à quoi nous avons droit pour que Dieu, lui, puisse arriver à obtenir ce à quoi il a droit? Vous voyez, souligner ça. On peut aller même de 2 Corinthiens 5, où il est écrit « Un est mort ». Alors que tout le monde était mort, et si nous vivons, c'est parce que lui vit. Vous voyez, c'est vrai. On ne vit plus pour nous-mêmes, mais on vit pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Amen. Donc je relis ici la phrase. Est-ce que il n'a pas été exposé et développé le fait qu'en réalité, nous devions renoncer à ce à quoi nous avons droit pour que Dieu, lui, puisse arriver à obtenir ce à quoi il a droit? Combien souvent nous voulons défendre nos droits et par cela même, nous donnons tort aux autres. Le grand problème, c'est pas... Donc Dieu pardonne. Mais le grand problème, c'est la justification. La justification des choses fausses qui ne sont pas selon la volonté de Dieu, qui ne sont pas selon la parole de Dieu. Parce qu'il y a une justification. Dieu pardonne l'acte, mais la justification, je ne sais pas. Dieu pardonne tout, bien sûr. Mais on dit, mais comment tu, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses bizarres qui se passent. Que Dieu vraiment nous fasse grâce. Qui a le droit? Le monde dit, je ne sais plus la phrase là, les droits, voilà, bon, soit. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu, les choses du monde. Amen. L'humilité, mes amis, l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Quelque chose d'important. Moi, je dis cela, un élu, un croyant, une croyante. Alléluia. Ça doit être en lui. Ah, n'est-ce pas? Moi, je lève la main au ciel et je dis, Seigneur, cette chose, si on attend l'enlèvement, si on attend que la dernière pluie arrive, est-ce que cette chose ne doit pas être déjà vaincue? Cette bataille de la chair, de l'humain? Et pourtant, on a répété cela. dans la prédication. Combien de fois on veut défendre nos droits et puis on donne au tort aux autres. Le manque de Myriam et d'Aaron n'était-il pas, donc ici, n'était-il pas à proprement parler un manque de respect vis-à-vis de Dieu? Le manque de respect et la révolte de Corée, de Dathan et de tous ceux qui étaient sous leur influence n'était-il pas un manque de respect et une révolte contre Dieu? Vous vous souvenez de cela? Dathan, Corée, Abiram. Quand donc respecterons-nous l'ordre divin et nous y intégrerons-nous? Vous voyez, comme on l'a dit, 1983 ici. Le frère Franck a écrit ici en 1983. Quand donc respecterons-nous l'ordre divin et nous y intégrerons-nous? Même des frères dans le ministère sont traités dans ce temps d'une manière tellement dégradante que cela ne s'est jamais vu auparavant. Les anciens qui méritent de recevoir double honneur, comme dit l'Écriture, sont dégradés et considérés comme rien. Et ces gens qui font cela demandent encore, où est donc l'Église? Et ces gens qui font cela demandent encore, où donc est l'Église? Ces personnes-là, ils se posent toujours la même question. C'est où? Elle est où l'Église? Et pour eux, rien n'est bon, rien n'est juste. Eux seuls sont justes. Vous voyez? 1 Timothée 4. Vous pouvez lire cela dans 1 Timothée 4. On connaît ces choses, mais on peut relire cela dans 1 Timothée 4. On sait déjà ces choses. L'apostasie des derniers temps. Vous voyez, il est écrit, 1 Timothée 4, « Or l'Esprit dit expressément qu'au dernier temps, quelques-uns apostasieront de la foi, s'attachant à des esprits séducteurs et à des enseignements de démons, disant des mensonges par hypocrisie, ayant leur propre conscience cautérisée, défendant de se marier, etc. » Allons de l'avant, continuons. Donc je continue à lire le frère Franck ici. Frère Branham disait, ceux-là même qui présentent les réclamations, ce sont 9 fois sur 10, ceux avec lesquels rien ne joue, rien ne fonctionne. De telles personnes se fabriqueront toujours de nouvelles doctrines qui, selon leur propre estimation, paraîtront justes. Ils prêcheront ce que leurs oreilles aiment entendre. Alléluia, vous voyez? Comprenez cela. Connaissez tout cela. La parole que Paul adressait à Timothée nous rappelle le récit de Juges 17. Donc, prenons Juges 17. On va lire d'abord et puis on prendra Juges 17. On l'a vu avec le frère Paty, on avait parlé de cela. Juges 17. Donc je relis. La parole que Paul adressait à Timothée nous rappelle le récit de Juges 17. En ce temps-là, on pouvait s'offrir le plaisir d'engager un homme pour son culte de maison. Attention, hein, c'est vraiment culte domestique là. On demanda au voyageur, d'où viens-tu? Et il répondit, « Je suis Lévite, de Bethléem, de Juda, et je voyage pour chercher une demeure qui me convienne. Je voyage pour chercher une demeure qui me convienne. » Vous voyez? Faites attention. Regardez un peu, retournez dans vos pensées, dans votre cœur, au temps, dans le temps passé. Et encore aujourd'hui, il y a des gens qui courent ici, qui courent là-bas pour chercher à régler les choses. Essayer de régler les choses pour pouvoir mettre en ordre une église, mettre en ordre chez les autres des choses. Oh, je suis lévite de Bethléem de Juda et je voyage pour chercher une demeure qui me convienne. Et encore, ces personnes existent encore aujourd'hui et pas en petite quantité. Le frère Franck écrit, de telles personnes existent encore aujourd'hui et pas en petit nombre. Frère Franck dit, pas en petit nombre. Il fut donc engagé à la place des fils. L'image de Dieu existait déjà. L'éphod était prêt et cet homme, et c'est ainsi que cet homme fut consacré dans le service. Mais cela ne venait pas de Dieu, voyez. Cet homme fut consacré dans le service, mais cela ne venait pas de Dieu. Mica pensait, maintenant je sais que l'Éternel me fera du bien puisque j'ai ce Lévite comme sacerdoce pour prêtre. Verset 3. Frère Franck écrit, on ne peut exprimer quelque chose de plus pieux. Et il n'y a pas de meilleure façon de s'abuser soi-même. Regardez la forme religieuse. Regardez un peu. Regardez dans Juges 16. Pardon, 17. Juges 17. Lisez tout le chapitre. Exactement pour voir ce qui s'est passé. Michée établit l'idolâtrie dans sa maison. Tout ça, c'est encore aujourd'hui. C'est aujourd'hui, dans la vie de tous les jours, chez les sœurs, chez les frères. Que Dieu nous aide, nous fasse grâce. Encore aujourd'hui, c'est comme ça. Que Dieu nous bénisse et qu'il donne la force de comprendre ces choses. Et ici encore, au verset 6, il est écrit, en ces jours-là, il n'y avait pas de roi en Israël, chacun faisait ce qui était bon à ses yeux. Combien de fois les prédications du frère Branham et du frère Franck, les prédications qui ont été publiées, les circulaires, les opus, les brochures, toutes les citations, tous les passages, tout. Normalement, toutes ces choses-là auraient déjà dû nous faire comprendre qu'il n'y avait qu'une seule façon d'adorer Dieu. Et pourtant, encore maintenant, il y a des gens qui sont dans des positions différentes. Je le dis vraiment, que c'est vraiment comme ça maintenant. Ils sont là, comme dans Juges 17. Regardez le verset 9. Et Michée lui dit, d'où viens-tu? Et il lui dit, je suis un Lévite de Bethléem de Juda, et je m'en vais pour séjourner là où je trouverai un lieu. Et pourtant, Bethléem, c'était la maison du Père de Dieu. Mais au lieu de rester à Bethléem, il cherche un autre lieu, un autre poste, une autre place. Et il continue. Et Michée lui dit, demeure avec moi, et tu seras pour moi un père et un sacrificateur. Et je te donnerai 10 pièces d'argent par an et un habillement complet et ton entretien. Regarde un peu ça. C'est pas ce qui se passe maintenant? Quand on commence à payer les serviteurs de Dieu? Et maintenant, dans les dénominations, ils doivent même faire l'école, ils doivent faire le diplôme et avoir un salaire. Et vous connaissez toutes ces choses. Regarde un peu Matthieu 23, 2. Lisons un peu Matthieu 23, 2. À partir du premier verset, Matthieu 23. Alors Jésus parla aux foules et à ses disciples, disant, les scribes et les pharisiens se sont assis dans la chair de Moïse. Toutes les choses donc qu'ils vous diront, faites-les et observez-les, mais ne faites pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Mais ils lient des fardeaux pesants et difficiles à porter. Ils les mettent sur les épaules des hommes, mais eux, ils ne veulent pas les remuer de leurs doigts. Vous comprenez cette parole? N'est-ce pas? Combien de fois voyons-nous et écoutons-nous frère Branham et frère Franck dire? Donc, c'est-à-dire, on a des difficultés à nous présenter seuls, on se cache toujours derrière un arbre plus grand que nous. Mais l'élu, il n'est pas comme ça. L'élu n'est pas comme ça. L'épouse n'est pas comme ça. Parce qu'il a un contact direct avec Dieu, une communion directe avec Dieu, personnelle. Il est plein du Saint-Esprit et d'harmonie avec tout le reste. Il marche en syntonie, en plein accord, guidé par le même esprit, la même guide. Alléluia. Alléluia. Donc ils sont vraiment assis dans la chair de Moïse. Vraiment. Et même assis dans la chair de Branham. Même assis dans la chair de frère Branham, frère Franck, et les autres serviteurs aussi. Mais Dieu doit faire grâce de personnaliser le croyant devant Dieu, lui donner une personnalité. Donc je crois qu'on va y arriver. J'aimerais finir cela. Lisons aussi Malachie. Malachie, chapitre 2. Une parole très importante ici. Très, très importante. Malachie 2, 7. Car les lèvres du sacrificateur gardent la connaissance. Et c'est de sa bouche qu'on recherche la loi. Car il est le messager de l'Éternel des armées. Mais, donc, car il est le messager de l'Éternel des armées. Quand on dit ange de l'Éternel des armées ou messager, c'est le même mot. Donc il faut rentrer dans l'esprit. C'est un messager, un ange est un messager, un serviteur de Dieu. On a des fois des difficultés à prononcer les vrais mots, les mots corrects. Que Dieu nous aide. Parce que c'est ce qui doit sortir d'un lévite, d'un sacerdote, d'un sacrificateur. C'est ça qui doit sortir. Et ça doit être ça. Pas de manière différente. C'est ça qui doit sortir de sa bouche. Donc j'aimerais continuer à lire ici. Donc le frère Franck écrit: dans la maison, on ne tenait même pas un culte divin, comme tous peuvent le lire, mais bien un culte à l'idole. Ces gens se sentaient heureux parce qu'un homme était venu à eux de Bethléem, de la ville et du pays d'où venait le grand prophète dont Moïse avait parlé. Vous pouvez le noter. Deutéronome 18, 15. Le Messie est de là. Bethléem, la maison du pain de Dieu, c'est de là qu'est venu notre Seigneur Jésus-Christ. Toi, petite Bethléem, de toi naîtra celui qui doit régner, etc. Et certainement que dans ces temps sérieux, l'Esprit de Dieu va encore parler à chaque enfant de Dieu, peut-être pour la dernière fois. Alléluia. Alléluia. On peut le croire, on veut le croire. On peut croire que Dieu parle encore pour la dernière fois. Il a déjà parlé à travers le prophète, il a déjà parlé à travers le frère Franck, et il continue à parler. Que Dieu continue à parler directement à nous tous, avec nous tous. Celui qui appartient à l'Église de Dieu prendra à cœur, donc je souligne cela, celui qui appartient à l'Église de Dieu prendra à cœur ce que l'Esprit dit aux Églises. L'Église du Seigneur n'est pas là où les gens agissent bizarrement, mais bien là où Dieu peut établir les différents ministères. On revient à Juges 17. Comme on l'a toujours dit. C'est de l'Église locale, c'est là où il y a Dieu à une assemblée locale, et on croit que là il est, c'est de là que sortent les différents dons, les différents lévites, les différents dons qui sont la bouche de Dieu. Que Dieu vraiment fasse grâce et qu'il nous donne la confirmation dans notre cœur pour la parole que Dieu nous révèle. Il est écrit, et lui a donné les uns comme apôtres. C'est là seulement où cela se passe ainsi qu'il y a un véritable culte et que s'accomplit l'édification de l'Église du Seigneur. Nous voulons respecter l'ordre divin et en tout point revenir à la parole. Puisse le Seigneur faire voir clairement à tous que la sanctification divine s'accomplit. Attention, faites attention à cela. Soulignez ça. Puisse le Seigneur faire voir clairement à tous que la sanctification divine s'accomplit en ceux qui se laissent pénétrer par la vérité de sa parole. Alléluia. Amen. La vérité de sa parole. C'est important. Je vais finir cette lettre de 1983. J'aimerais finir l'année 80, l'octobre 83. J'aimerais bien finir cette lettre circulaire 30. À tous ceux qui ont parlé, s'adresse cet appel. Rassemblez-vous devant la tente de la révélation. Alléluia. Ça vous fait penser à quoi cette parole? Je vais encore lire un peu puis les Écritures. À tous ceux qui ont parlé, s'adresse cet appel. Rassemblez-vous devant la tente de la révélation. Dieu donne aujourd'hui à chacun la même réponse. Ensuite seulement, les intercessions peuvent aider. Mais allons devant la tente de la révélation. Quand il y a un problème, quand il y a une situation un peu difficile, comme cela a été fait dans l'Ancien Testament, encore aujourd'hui, ça devrait être comme ça. Qu'est-ce que c'est l'attente de la révélation? Bon, je peux dire ceci, comprenez bien. La vision, que ce soit du frère Branham ou du frère Franck, il a répété dimanche, de cette tente, de cette grande, immense tente, là où Dieu était, où il y avait des guérisons, où il y avait la réponse de Dieu. Parce qu'il s'agit de cela, en fait. Rassemblez-vous là où Dieu donne sa réponse, là où il y a la réponse directe. Donc Dieu donne aujourd'hui à chacun la même réponse. On est là, on peut lire dans Nombre 16-16. Lisez un peu, Nombre 16-16. C'est pour ça que Dieu doit nous envoyer une nouvelle Pentecôte. Dans Nombre 16-16. Alléluia, Dieu bénisse nos cœurs. Et qu'on puisse vraiment comparaître encore ce soir devant l'attente de la révélation. Nombre 16-16. Alléluia. Et Moïse dit à Corée, vous connaissez toute l'histoire de Corée, Dathan et Abiram, le bâton aussi de la verge d'Aaron, le bâton qui donc ils étaient pourtant fils de Lévi, mais il y avait toujours des contradictions. Donc ce sont des fils de Lévi, mais pourtant il y avait des contradictions entre eux. Donc je vais aller vite, je vais lire verset 16. Et Moïse dit à Corée, toi et toute ton assemblée, soyez demain devant l'Éternel, toi et eux, et Aaron, et prenez chacun votre encensoir, et mettez de l'encens dessus, et présentez devant l'Éternel chacun votre encensoir, 250 encensoirs, et toi et Aaron, chacun son encensoir. C'est quoi cette tente de la révélation? On va le lire maintenant, au verset 17, au nombre 17. Excusez-moi, c'est Exode 33:7. Excusez-moi, Exode 33:7. Et on a la clé ici. Quand je l'ai lu, mes frères, le Seigneur vraiment est merveilleux. pendant des années, pendant plusieurs années, Dieu a continué à nous révéler sa parole. Il a continué à bénir nos cœurs. Et il a eu beaucoup, beaucoup de dérangements, beaucoup de distractions, beaucoup de problèmes qui ont eu lieu. Mais maintenant, on arrive vraiment à la fin, à la pierre du fait. On arrive à la fin. Mes amis, on a le droit d'arriver à la fin maintenant. Regardez. Comparaître devant la tente de la révélation, c'est comme quand Paul parle, c'est comme comparer devant le tribunal de Christ. C'est la même chose sur la terre. Pas au ciel, hein, sur la terre. Parce que c'est de là que sortait la parole directement à Moïse pour le peuple. Et il lui était révélé ce qu'il devait faire. Voilà ce dont nous avons besoin, que Dieu nous aide, qu'il nous fasse grâce. Regarde un peu. Et Moïse, Exode 33:7. Et Moïse prit une tente. Pensez à cette tente. Et il attendit pour lui hors du camp, loin du camp. Il l'appela la tente d'assignation. Et il arriva, et attention, il arriva que tous ceux qui cherchaient l'Éternel sortirent vers la tente d'assignation qui était hors du camp. Ça ne vous dit rien, cela? Et il arriva que, lorsque Moïse sortit vers la tente, tout le peuple se leva et s'éteint chacun à l'entrée de sa tente et suivit des yeux Moïse jusqu'à ce qu'il entrât dans la tente. Et il arriva que, comme Moïse entrait dans la tente, la colonne de nuée descendit et s'éteint à l'entrée de la tente. Et l'Éternel parla avec Moïse. Et tout le peuple vit la colonne de nuée se tenant à l'entrée de la tente. Et tout le peuple se leva et ils se prosternèrent chacun à l'entrée de sa tente. Et l'Éternel parla à Moïse face à face, comme un homme parle avec son ami. Et Moïse retournait au camp. Et son serviteur Josué, fils de Noun, jeune homme, ne sortait pas de l'intérieur de la tente. Vous voyez? Mais qu'est-ce que c'est cette tente? Qu'est-ce que c'est cette tente de la révélation? Ça vous fait penser à quoi? Cette tente, ce tabernacle, vraiment, là où le Seigneur parlait face à face, là où le Seigneur parle face à face avec nous, vous y croyez? La tente de la révélation, cette parole de Dieu directe qui vient à toi, cette révélation de Dieu directe qui vient à toi. Alors voilà pourquoi il faut être jugé chacun par le tribunal de Christ. Lui, c'est la révélation de la parole de Dieu qui venant à toi te donne la clarté, la lumière. C'est ainsi dit le Seigneur et c'est tout. Il n'y a pas d'autre moyen. Et ça c'est vrai. C'est la réalité. Alléluia. Vous voyez? L'attente de rencontre, l'attente de rencontre, l'attente d'assignation. À l'intérieur, il y avait l'arche de l'Alliance. L'arche de l'Alliance. Avec les deux chérubins, l'arche était là. La caisse là qui avait été faite, couverte d'or et par-dessus. Et dedans, il y avait aussi l'étape de la loi, la manne et la verge d'Aaron. Et encore aujourd'hui, je le dis de tout mon cœur, pour moi ça a été une grande, je dis certaine révélation, dans le sens que ça a complété pleinement ce que j'ai toujours cru, ce que j'ai toujours accepté devant Dieu. Cette tente d'assignation aujourd'hui, cette tente de la révélation, on doit se trouver devant les frères, les sœurs, qui parfois, ces frères ou ces sœurs, parfois qui ne sont pas à leur place, ou qui veulent se mettre, comment dire, qui sont complètement pervertis, tordus, qu'ils puissent vraiment venir devant cette tente de la révélation et que Dieu puisse vraiment leur parler face à face, expressément, avec le « ainsi dit le Seigneur ». Parce que ce qui sortait de la bouche, c'était Dieu même qui parlait. La colonne de feu descendait, le Saint-Esprit venait et la révélation venait. Et le cœur était rempli de joie et de vie. Amen. et Dieu te donne la réponse dont tu as besoin, n'est-ce pas? Amen. Vous y croyez? Amen. Mais Dieu a mis là des personnes. Dieu a mis là Moïse, Dieu a mis là des hommes, des personnes qui sont là. Venez devant la tente de la révélation, devant la face de Dieu. Là, il y a un jugement de Dieu. Et là, exactement, on peut dire que avant même qu'on soit devant le tribunal de Christ, où il y a l'éphod, où il y a les douze apôtres, prophètes, les anciens, qui sont là, les douze apôtres et douze prophètes, mais que déjà maintenant ça puisse briller, je le dis devant le Seigneur, que Dieu puisse confirmer sa parole ici maintenant. Que Dieu nous bénisse et nous fasse grâce. Pour moi, c'était quelque chose de spécial. Pour ça, que quand il est écrit « Sortez », qu'est-ce que ça veut dire « Sortez » ? Je parle avec vous tous, hein. Sortir du camp, qu'est-ce que ça signifie ? Donc la tente d'assignation qui était hors du camp, c'est pour chercher le Seigneur. Le Seigneur Jésus est mort hors du camp. On peut le lire, sinon. Il est mort hors du camp. Mais pourquoi? Car lui-même était le tabernacle. Lui-même était la tente de révélation. La tente de rencontre. D'assignation, comme on l'a lu ici. Cette tente d'assignation, cette tente de la rencontre, où lui-même a souffert, lui-même a payé le prix. Mais il devait sortir du camp, il ne pouvait pas rester dans le camp. Et des fois, on a des difficultés à sortir. Des fois, on a des difficultés d'aller même rencontrer le Seigneur Jésus. Même le peuple d'Israël, quand il avait des problèmes, il sortait, il se présentait devant la tente. Il ne rentrait pas, mais il se présentait devant la tente. Vous voyez? Parce que c'était hors du camp. Ils étaient hors du camp. Et pour nous, c'est un enseignement glorieux, béni, merveilleux. Je lis encore un autre passage des Écritures. Mais ça, on l'a compris. On continue. Hébreux 13. Lisons Hébreux 13. Hébreux 13. À partir du verset 12. C'est pourquoi aussi Jésus, afin qu'il sanctifie le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Ainsi donc, sortons vers lui hors du camp, portant son opprobre. Allons au tabernacle de la révélation. Amen. De façon que chacun d'entre nous, l'Église du Dieu vivant, dans ces temps difficiles, dans ces moments, que chacun puisse recevoir de Dieu les réponses dont il a besoin, les bénédictions dont nous avons besoin, la foi, la force dont nous avons besoin, et tout le reste. Sans nous occuper d'autre chose. Sortir hors du camp. Sortons vers lui hors du camp. Ça a été vraiment une bénédiction pour moi. Cette arche que Dieu a établie. Et à l'intérieur, il y avait le témoignage du Dieu vivant. Le témoignage du Dieu qui parle toujours. Cette colonne qui venait, qui entrait dedans. Dans le secret. Et qui parlait face à face avec Moïse. Et il est capable de le faire maintenant avec toi. Amen. Alléluia. Mes amis, que Dieu vraiment nous bénisse. Des fois, c'est une souffrance. Mais Dieu doit nous aider. pour pouvoir toujours plus s'identifier à sa parole, à son esprit. C'est important. On vit des temps difficiles, mais des temps glorieux, des temps précieux. Chaque jour qui passe, il y a quelque chose de spécial qui passe, qui arrive. Que Dieu nous fasse sortir de la torpeur et qu'il nous fasse entrer dans l'esprit, dans la juste position. De puissance que nous puissions capter ce que l'esprit veut nous faire, ce que l'esprit veut nous dire. Dans l'obéissance totale. Parce qu'il y a une obéissance. Sans cette obéissance, la sanctification va passer au-delà. Vous voyez? Donc ici, il écrit des choses vraiment spéciales. Donc je vais encore continuer à lire ici. Donc Frère Franck écrit: Dieu aujourd'hui donne aujourd'hui à chacun la même réponse. Ensuite seulement les intercessions peuvent aider. La purification et la repentance. La purification et la repentance que certains ont exigé, attention, que ces paroles sonnent comme une trompette. Et que vous, ça puisse être compris dans le cœur comme une trompette. La purification et la repentance que certains ont exigé à haute voix des autres, ce sont eux qui devront l'entreprendre dans le silence. Celui qui maintenant ne peut pas reconnaître avec quelle implacabilité et avec quelle haine mortelle l'inimitié a été répandue, pourra difficilement expérimenter la réconciliation et le pardon. Pour beaucoup, cela constituera un trop tard. Que Dieu nous aide dans la foi. Que Dieu nous fasse reconnaître le temps dans lequel nous vivons. Vous voyez? Regardez, le frère Franck écrit, avec quelle haine mortelle l'inimitié a été répandue. J'aimerais terminer cela aujourd'hui, si c'est possible. Ou alors vous voulez aller au lit? Vous voulez tous aller dormir? J'aimerais le finir. Nous savons ce que c'est. L'inimitié. Vous connaissez l'inimitié dans Genèse? Cette guerre-là. C'était terrible. Moi, je parle vis-à-vis de Krefeld, je parle vis-à-vis de quiconque a été pris par cette méchanceté dans ce mélange. Romains 8, 7, lisons aussi. Alléluia. Romains 8, 7. Romains 8, 7. Parce que la pensée de la chair est inimitié contre Dieu, car elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, car aussi elle ne le peut pas. Et ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Dieu. Amen. Alléluia. Ça, c'est important. Éphésiens 2, 14. On parle de ce que Dieu a fait. Éphésiens 2, 14. On va partir de verset 13. Éphésiens 2, 13. Mais maintenant, dans le Christ Jésus, vous qui étiez autrefois loin, vous avez été approchés par le sang de Christ. Car c'est lui qui est notre paix, qui des deux en a fait un et a détruit le mur mitoyen de clôture, ayant aboli dans sa chair l'inimitié. Ayant aboli l'inimitié dans sa chair. Vous voyez? Pour ceux qui sont en Christ. Pour ceux qui veulent rester dans la parole, parce qu'ils veulent rester dans la révélation, dans la parole révélée et obéir à la parole de Dieu. Et pour eux, il n'y a plus d'inimitié. La loi des commandements qui consiste en ordonnance afin qu'il créât les deux en lui-même, pour être un seul homme nouveau, en faisant la paix, afin qu'il les réconcilia tous les deux en un seul corps à Dieu par la croix, ayant tué par elle l'inimitié. Pour ces gens-là, il n'y a plus d'inimitié. D'inimitié, il y a la grâce, l'amour, la compréhension, l'humilité, la tranquillité. Vous voyez ? Jacques 4, 4. Alléluia. Adultère, ne savez-vous pas que l'amitié du monde est inimitié contre Dieu ? Regardez combien d'inimitié. Depuis le commencement, il est arrivé. Depuis le commencement. Voilà les deux lignées. La lignée de Sem et la lignée et l'autre différente. Il n'y a plus de guerre, il n'y a plus d'inimitié avec Dieu pour nous. Quiconque voudra être ami du monde se constitue ennemi de Dieu. Ou pensez-vous que l'Écriture parle en vain? Donc je continue à lire ce que Frère Franck a écrit. Les prédications les plus importantes ont été publiées, et par cela même les semailles ont été faites. En chacun la semence lèvera et croîtra. Nous sommes dans une grande attente de la pluie de la dernière saison, laquelle tombera certainement avant la moisson. Si parfois la façon de parler du Seigneur est sévère, c'est pourtant toujours dans l'amour qu'il parle. Attention mes amis, faites attention à cela. Attention. Que Dieu humilie notre cœur et tous ceux qui l'écoutent. Si parfois la façon de parler du Seigneur est sévère, c'est pourtant toujours dans l'amour qu'il parle. Tous ceux que le Seigneur aime, il les avertit et les châtie. Dans son grand amour, il prend soin de tous ceux qu'il a fait sortir par amour. Hors du camp, par amour. Ainsi nous voulons accepter, ainsi nous voulons tout accepter et être reconnaissants. Alléluia. Que cette pluie, cette deuxième Pentecôte puisse vraiment venir et nous rassembler devant la tente de la rencontre où il y a la colonne de feu. Pas avec la bouche, mais avec le Saint-Esprit. Pas parce qu'on veut être différent des autres, mais parce que Dieu l'a promis. Dieu l'a fait. Dieu l'a fait, mes amis. Faites attention. Dieu l'a fait. Vous voyez ? Donc, il y a l'attente de la révélation, juste avant que cette chose puisse être révélée et que chacun puisse se soumettre à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu, à l'Esprit de Dieu. De sa propre volonté. Et avec un plein amour. Ça, c'est important. Et si vous lisez Osée, on va le lire rapidement dans Osée 6:3. Alléluia. Osée 6. Venez, retournons à l'Éternel. Une parole prophétique. Le frère Franck a déjà prêché là-dessus. Il y a déjà eu des prédications. Car lui a déchiré et il nous guérira. Il a frappé et il bandera nos plaies. Dans deux jours, il nous fera vivre. Au troisième jour, il nous mettra debout. Il nous réveillera. Et nous vivrons devant sa face. Et nous connaîtrons et nous nous attacherons à connaître l'Éternel. Sa sortie est préparé comme l'aube du jour, et il viendra à nous comme la pluie de la dernière saison arrose la terre. Amen. Jacques aussi le dit. Jacques chapitre 5. Mais je voulais encore lire Apocalypse, le dernier passage de l'Écriture, et ensuite nous terminons. Apocalypse Apocalypse 13, dans cette époque de l'Odyssée, dans cette dernière époque, comme on l'a dit, le message de la correction, de la mise en ordre avec Dieu, dans cette époque de l'Odyssée, à la fin, il est écrit cela. Je reprends et j'aime tout ce que j'aime. Et donc, du zèle et repens-toi. Je suis à la porte et je frappe. Et si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, voilà, je mangerai avec lui. Donc, c'est dans Apocalypse. C'est dans Apocalypse. En fait, c'était Apocalypse 3, hein, qui vient de lire. Donc, on sait tous Apocalypse 3, 19 et 20. Donc, que Dieu fasse grâce. Apocalypse, c'était Apocalypse 3, 19 et 20. Donc les choses impossibles à l'homme sont possibles à Dieu. L'homme est sous la loi, mais sous l'influence. Il est né sous l'influence de la loi. Mais Dieu nous a fait grâce de nous faire sortir et de nous faire entrer dans l'âge de la grâce du pardon. C'est vrai. Il y a beaucoup de passages dans Jean 1 où il est écrit que Moïse est venu par la loi et la grâce. Et la miséricorde soit venue par Jésus-Christ. Amen. Vous voyez? Donc c'est le passage qui vient à l'esprit à l'instant. Il y a beaucoup, beaucoup de passages. Donc, quoi qu'il en soit, c'est important que cette parole puisse... tous ceux qui ont mal parlé des serviteurs de Dieu, mal parlé du mouvement de Dieu, de la manière dont Dieu agit, que eux, à leur tour... Vous voyez, qu'ils puissent trouver eux. Donc, comme le frère Franck a écrit ici, la purification et la repentance que certains ont exigé à haute voix des autres, ce sont eux qui devront l'entreprendre dans le silence. Celui qui maintenant ne peut pas reconnaître avec quelle implacabilité et avec quelle haine mortelle. Vous voyez comment le diable s'est moqué des fils et des filles de Dieu. Et qu'on est toujours resté là debout, comme ça. Celui qui ne peut pas reconnaître ça. Mais si on est resté debout, c'est la grâce de Dieu. C'est la miséricorde de Dieu. C'est parce que Dieu nous a accompagnés, nous a gardés, nous a suivis. Il a toujours été avec nous. Vous y êtes? Parce que le diable est devenu comme un fleuve. Mais Jésus-Christ a été notre intercesseur. Amen. Jésus-Christ a été celui qui a fait la barrière, la séparation, pour pouvoir contraster, contredire le diable et ses anges. Qu'on puisse le comprendre parfaitement, et qu'on puisse le comprendre. Cette tente de la révélation, il suffit d'une parole, et il y a une mer qui s'ouvre, la mer de la parole de Dieu qui s'ouvre, tout un programme. N'est-ce pas merveilleux? Amen. Et ça, c'est vrai. Moi, je crois que oui, mes amis. Amen. Maintenant, vous pouvez... Nous allons prier un instant avant. Ouvrez vos caméras. Faites-vous voir. Voilà. Vous pouvez ouvrir votre caméra. Parce que j'aimerais vous voir, j'aimerais communiquer avec vous. C'est difficile si je ne vois pas vos visages. Voilà. Faites voir vos visages. Que Dieu nous fasse grâce. Je l'ai dit de tout mon cœur, sans hypocrisie, sans feu à l'intérieur de moi. Mais parfois, je ne sais pas comment l'exprimer. Je sens un feu à l'intérieur. Merci, Seigneur. Que Dieu vous bénisse tous. Dieu te mise grâce. Je sens à l'intérieur, je ne sais pas comment le dire. Les paroles viennent parce qu'il y a beaucoup de choses derrière. Que Dieu vraiment nous bénisse, nous fasse grâce, nous aide. On vit un temps vraiment glorieux. Amen. C'est un temps difficile. Moi, j'aimerais partir le plus tôt possible avec le Seigneur, vous savez, et je sens dans mon cœur. Amen. Nous aussi, je sens qu'il y a encore des choses que le Seigneur veut nous faire voir. À Dieu soit toute la gloire. Amen. Que ce soit lui à diriger nos vies. On vit des temps vraiment... Quand on communique avec la parole, quand on communique avec l'esprit, on communique. On voit que vraiment il y a des choses qui nous entraînent. Bon, il est bientôt 10 heures du soir. On a pris 2 heures. Si vous voulez vous rebeller, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Vous êtes libre. Moi, je m'arrête. Voilà. Parce que moi, j'ai étudié 2 jours, j'ai lu 2 jours. Donc, j'aimerais bien prendre au moins 2 heures, disons, pour en parler. Dans le sens que j'ai lu tranquillement tout cela. Parce que c'est important. Combien de choses sont passées sous les yeux des frères et des assemblées, et combien de choses passent sans qu'on s'en rende compte. Combien de choses. Il y a une souffrance, mes amis. Il y a une grande souffrance de voir ton frère ou ta sœur derrière toi et non pas avec toi. Ça ne vous fait pas souffrir, ça? Amen. On souffre de voir des frères ailleurs, mais pas avec vous. Donc être à côté du Seigneur. Il y a un passage qui dit cela. C'est dans Jean 12. Là où je suis, mon serviteur est. Ça doit être comme ça. Alléluia. Dieu bénisse ton cœur. Amen. Qu'il me donne la force, la foi d'assimiler la parole et de pouvoir l'exprimer avec celui, avec qui? Avec celui qui veut écouter. Amen. Avec celui qui veut l'écouter. Alléluia. Beaucoup encore de difficultés avec l'Esprit Saint. C'est-à-dire avec la connaissance qui vient du Saint-Esprit. Dieu voulant, on devrait faire une réunion là-dessus. Un petit enseignement là-dessus, si vous êtes d'accord. On pourra faire un petit enseignement là-dessus. De façon que nos cœurs puissent comprendre et réaliser la présence de Dieu. On a réalisé ce que Dieu a fait avec Frère Franck, mais on peut encore réaliser d'autres choses, comprendre d'autres choses. On peut faire encore plus de pas en avant. Voir ce que Dieu a à nous dire, de façon qu'il y ait un peu plus d'avancement vers Dieu. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia. Je crois que ce soir, vous avez compris ce que le Seigneur voulait dire, comme on l'a lu. Mais dans l'ensemble, je crois que le Seigneur nous a bénis. Amen. On a bien compris la chose avec la parole de Dieu. Alléluia. Comme par exemple, des gens qui disent avec la loi, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Mais regardez, Frère Jackson. Moi, quand je l'ai lu, ma position à moi, donc je ne veux pas encore revenir dans les détails, mais vous savez combien j'ai été béni, combien j'ai été béni. Je ne sais pas si vous avez compris, ceux qui connaissent, ceux qui ont connu ma position. N'est-ce pas? Fred Jackson, qui était là, et que j'ai connu là, que j'ai connu Sidney Jackson, je l'ai connu. Alléluia. Et je me souviens de ce pupitre est trop petit pour moi. Il avait enlevé sa veste. Ce sont deux hommes de Dieu qui ont fait l'histoire. Alléluia. Comme le frère Bosworth aussi. Le frère Bosworth aussi. Et qui avait un lit plein de Bible. Un lit plein de Bible. Et ensuite le Seigneur l'a pris. L'a repris à lui. Il attendait le Seigneur. Il attendait le Seigneur. Qu'on puisse aussi l'attendre nous aussi. Amen. Il y a encore beaucoup d'autres choses. Tous ces hommes de Dieu qui ont vécu près du prophète. Voilà l'attente de la révélation, l'attente d'assignation. L'attente de la rencontre. Amen. Ils étaient là, tout près. Ils ont vécu là, tout près. Josué était là. On n'est pas parti. Il a voulu recevoir lui aussi et il a reçu. Amen. Alléluia. Dieu nous bénisse. Voilà, il est 21h58. Alléluia. Qui veut remercier le Seigneur? Qui a à cœur de remercier le Seigneur? Pour ce qu'il fait parmi son peuple. Pour ce qu'il fait. Comment Dieu agit. Dieu miséricordieux, nous te remercions pour ta parole, pour ce que tu nous donnes, pour la révélation à travers ton esprit. Nous pouvons arriver à cette perfection que tu nous as promis, que tu nous as montré en venant sur la terre en forme humaine. Nous voulons être obéissants à ta parole. C'est pour ça, Seigneur, que nous avons continuellement besoin de ce discernement, de la révélation dans notre vie, afin que nous ne puissions pas faire notre volonté, mais ta volonté. Seigneur, tu as été doux et humble. Tu nous l'as montré. Et nous aussi, nous devons marcher dans l'humilité et reconnaître ce que tu fais dans ces derniers temps. Et nous voulons, Seigneur, être obéissants en toutes choses. Nous te remercions, Seigneur. Comment tu nous as parlé ce soir à travers cette parole révélée par le Saint-Esprit de ce qui a été révélé au frère Branham, ce que le frère Franck a rapporté, ce qu'il a écrit, nous te remercions parce que nous nous rendons compte que nous sommes à la fin des temps et ainsi nous cherchons de tout notre cœur la sanctification, celle que toi tu peux donner à travers ta parole. À travers ton esprit, aide-nous, Seigneur, ouvre nos yeux, afin que nous puissions voir ta main puissante étendue sur nous en ce temps-ci, si difficile mais aussi glorieux, Seigneur. Te prions de nous aider, afin que, malgré les difficultés, nous puissions lever les yeux au ciel et voir que toi, tu es là en train d'accomplir ton œuvre, et bientôt tu nous prendras. Nous avons un désir profond de rentrer à la maison. Rends-nous des instruments entre tes mains, afin que nous puissions parler à ce monde qui périt, et qu'il puisse écouter aussi ta parole. Aide-nous, Seigneur, afin que nous puissions entrer dans cette tente, avoir cette pleine communion avec toi, Seigneur, et dans cette tente, personne ne pouvait s'approcher, il y avait tellement ta présence. Ainsi, ta parole nous a été révélée afin que nous puissions être un avec toi, faire partie du corps de Christ. Et ainsi, nous voulons te servir et nous servir les uns les autres. Merci pour ta bénédiction. Merci pour cette soirée. Continue ton œuvre afin que nous puissions toujours méditer ta parole dans nos lits. Que rien ne tombe à terre, mais que nos cœurs crient à toi, afin que tu puisses intervenir et changer nos pensées charnelles en pensées spirituelles. Merci pour toutes choses. Bénis ce petit groupe et bénis ton peuple sur toute la face de la terre. Bénis et continue à te révéler. Accorde-nous ta paix, ta bénédiction. Chaque chose qui est dans nos cœurs, sachant que tout est possible à celui qui croit. Je te prie dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci, Seigneur Jésus. Amen.